Bonsoir, vous êtes peut-être sur la route ou vous vous apprêtez à la prendre pour ce long week-end du 15 août. Alors on ne connaît pas encore les chiffres du mois de juillet, mais sachez que le bilan de la sécurité routière du mois de juin est mauvais, plus 15,4% de tués, cela représente 329 morts. Et il ne fait pas exception depuis 3 ans, le nombre de tués sur les routes augmente. Que faut-il faire? Plus de sanctions, plus de limitations, plus de prévention? Réagissez, posez vos questions par mail sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson et par téléphone. Au 01 45 24 7000.
Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Sécurité routière, mortalité sur la route, comment inverser la courbe? Bonsoir Jean-Gilles, bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Oui, alors bonsoir, je me permets de vous poser une petite question, mais de combien en pourcentage le trafic routier a-t-il augmenté entre les voitures particulières et le fret? Et la deuxième question qui est très rapide, quand vous voyez l'état des routes en France et l'état de la signalisation des panneaux routiers, alors que je circule beaucoup en Espagne et en Allemagne, les panneaux routiers sont beaucoup mieux explicites en Espagne qu'en France. Voilà.
Alors, pour vous répondre, évidemment, nos invités ce soir, Alexandre Rochat, délégué interministériel adjoint à la sécurité routière, bonsoir.
Bonsoir.
Claude Gault, accidentologue, auteur du site sécuritéroutière.org, bonsoir. Et maître Gilles Fourisco, avocat de l'association Victimes et Citoyens, bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Rochat, délégué interministériel adjoint à la sécurité routière. Revenons peut-être sur ces chiffres, justement. On dit que le nombre de morts a augmenté par rapport à la circulation. Ça semble être un point important pour Jean-Gilles.
Oui, oui, effectivement, c'est un point qui est extrêmement important. Peut-être juste pour commencer. Depuis 3 ans, effectivement, on a connu 2 années d'augmentation assez forte de la mortalité routière en 2015 et en 2014 et en 2015. En 2016, on a connu ce qu'on essaie d'expliquer comme étant une stabilité, puisqu'on est à plus 0,5% de mortalité par rapport à l'année précédente. Donc, on a non pas pour l'instant une inversion de la courbe, c'est-à-dire une diminution du nombre de morts sur les routes, mais on a une stabilisation qu'on espère pouvoir concrétiser dans l'année 2017. Alors évidemment, ce chiffre doit être contrebalancé de la circulation, c'est-à-dire du nombre de voitures qui circulent et surtout du nombre de kilomètres qui sont parcourus par ces véhicules. Les données ne sont pas encore connues précisément pour l'année dernière. Les premiers éléments qu'on a, et ce sont ceux que nous avons indiqués quand nous avons annoncé le bilan de la mortalité 2016, on s'aperçoit qu'on a une stabilisation du nombre de tués par milliard de kilomètres parcourus. C'est-à-dire qu'en 2016, on revient à peu près au même chiffre qu'en 2013. Ça veut dire qu'on a une stabilisation quand on compare aux kilomètres parcourus.
C'est sans doute ce que voulait nous dire Jean-Gilles, qui faisait également allusion aux panneaux de signalisation.
Oui, ça je n'ai pas très bien compris la question. Les panneaux de signalisation en France sont des panneaux qui sont réglementés, qui sont présents sur tous les axes.
Il n'y a pas d'harmonisation européenne?
Non, il n'y a pas d'harmonisation européenne. Il y a une réglementation qui existe et une explication commune qui existe, qui est partagée par les frontières. C'est-à-dire qu'on connaît les panneaux et on est capable de les comprendre d'un pays à l'autre.
Claude Gault?
Moi, je suis sur plusieurs points un désaccord complet. D'abord, sur la situation actuelle, il ne faut pas juger sur un mois, il faut juger sur les années passées.
Mmh. On a eu
3 ans et demi de dégradation de la mortalité sur les routes. On n'avait pas vu ça depuis 1972.
Mais peut-être que ce que Jean-Gilles voulait nous dire, c'est qu'il y a plus de morts, mais il y a plus de voitures.
Quand on regarde sur le long terme l'évolution de la circulation, on a eu des très fortes augmentations de la circulation jusqu'en 72. En 73, et ça a été un des éléments favorables des réformes de 73, on a eu un ralentissement de la croissance et à partir de 2000-2002, pratiquement une stabilisation un peu au-delà de 100 milliards de kilomètres parcourus. Donc, on est dans une situation de légère croissance de la circulation. Et si on prend, pour exemple, ce qu'on attribue en gain à la sécurité routière par l'action sur les véhicules, j'ai travaillé beaucoup avec les constructeurs, 1,5%, 2% par an, maintenant, ça correspond à peu près à l'augmentation que l'on peut avoir, d'une part, des kilomètres parcourus, et d'autre part, tenir compte de ces progrès pour dire que ça se neutralise. Donc, quand on voit que sur 3 ans et demi, on est à 9% d'augmentation de la mortalité sur les routes, et pour moi c'est ça qui est important, et qu'on voit que des pays voisins comme la Suisse, qui a une rigueur dans l'application des textes et dans le respect vraiment du code de la route, a eu environ 20% de réduction de la mortalité. Bon, ben, il n'y a pas photo. On a été dans une situation qui est une situation d'indifférence à la sécurité routière, d'incompétence.
Depuis 3 ans.
Depuis 3 ans. Et on voit les résultats.
Alors, peut-être que la politique qui est en place depuis quelques années concernant les radars va vous interpeller. Je crois que c'est le thème de la question de Francis sur France Inter. Bonsoir Francis, soyez le bienvenu.
Merci, bonsoir à tous et à toutes. Bon, moi je suis sur la route, je suis en vacances, donc je roule pas beaucoup en fait. Hein. Mmh. Mais là je constate, tout à l'heure, tiens, par exemple, j'ai croisé, tout ce que je dis c'est vrai, hein. J'ai croisé un chauffeur routier au volant dans son bahut, de 40 tonnes, téléphone portable. Et pourtant les gendarmes étaient de l'autre côté, mais les gendarmes ne peuvent pas être partout. Et puis je pense qu'il y a une forme de laxisme qui s'est instaurée, les gens s'en foutent en fait. Moi je le vois, quand je respecte beaucoup la limitation, je fais au mieux, hein. Je prétends pas être une élite, mais les gens vous poussent, vous collent, en double, sans clignotant, téléphone portable, ça c'est clair, je les vois souvent. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait que plus on mettra d'interdits, plus il y aura une forme de révolte. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas si la répression c'est bien, mais en tout cas, moi sur la route, je ne suis pas à l'aise. Quoi.
Alors, voilà. Merci Francis. Dans la question de Francis, il y a un petit peu tous les mots qui sont déjà mis, puisqu'il y a laxisme, répression. Alors, peut-être du côté de la sécurité routière avec vous, Alexandre Rochat, est-ce qu'il y a de plus en plus de laxisme ?
Je ne sais pas ce que vous entendez par le terme de laxisme.
Ce que dit Francis, c'est par exemple, les gens ont l'impression que voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas assez de policiers, ils peuvent pas être partout. On peut pas toujours mettre des PV.
Alors, il y a pas assez de policiers. On pourra jamais mettre de toute façon un policier dans chaque voiture et un policier derrière chaque conducteur. Donc ça, c'est certain. Le deuxième point, c'est que on s'aperçoit quand on regarde les accidents, notamment les accidents mortels des dernières années, qu'il y a 90% des accidents qui sont dus à une faute ou une erreur de comportement. Ça veut donc dire que c'est vraiment la personne qui est en cause dans son utilisation de son véhicule. On peut pas parler de laxisme. Les forces de l'ordre sont tout aussi mobilisées qu'elles l'étaient dans les années précédentes. On a 14 000 policiers et gendarmes qui sont sur les routes cet été, par exemple. Ils seront ce week-end notamment pour les grands départs. Donc il n'y a pas de laxisme derrière tout ça. Il y a simplement.
Est-ce qu'il y a plus de répression ?
Je ne sais pas s'il y a plus de répression. Il y a, en tout cas, on met en place tous les instruments qui nous permettent et tous les dispositifs qui nous permettent de mieux faire respecter les règles. Parce que c'est ça qui est essentiel sur la route. La route, c'est un usage collectif que nous partageons avec tout le monde. Mmh. Tous les risques que nous prenons pour nous-mêmes sont des risques qu'on prend aussi pour les autres. Et donc, il est essentiel que les règles, qui sont des règles de la route, qui sont des règles d'usage et de bien rouler ensemble, soient respectées par tout le monde. Donc, on met en place tous les éléments qui permettent de vérifier que ces règles sont bien appliquées et donc de sanctionner quand ça ne l'est pas.
Maître Gilles Fourisco de l'association Victimes et Citoyens, vous observez des accidents qui sont dus à quoi, selon vous ?
Oui, il y a toujours un cocktail, hein, entre la vitesse, la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants. Et les conséquences,
mais est-ce que vous observez des petites incivilités, comme semblait nous le dire Francis ?
Il y a très souvent des incivilités, une manipulation du téléphone portable, une inattention sur les panneaux de signalisation, une inattention en approche d'intersection, le fait de ne jamais vérifier d'angle mort, notamment pour les motards, c'est terrible au niveau des conséquences. Donc effectivement, il y a des grosses infractions et puis il y a aussi ces incivilités quotidiennes, habituelles et malheureusement régulières pour certains automobilistes qui font qu'on a des conséquences qui sont lourdes.
Jean-Pierre est avec nous au 01 45 24 7000. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui.
Bienvenue.
Ouais, oui, moi je voudrais dire qu'on est très sévère pour les petits dépassements de vitesse, genre 53, 54, 94 ou 115, mais on n'est pas assez sévère pour les comportements. Et les comportements, en fait, il faudrait plus de voitures banalisées pour détecter les comportements assassins de la route. J'en vois tous les jours. Vous savez, il suffirait qu'une voiture servie par quelqu'un d'assez remonté avec une dashcam qui circule et des comportements, elle en verrait 10 ou 15 par jour. Je roule pas énormément, mais je roule quand même pas mal. Et j'ai vu là ces derniers jours des gens mais faire des choses complètement aberrantes, mais aberrantes, vraiment des mises en danger de la vie d'autrui. Et ça, on le voit tous les jours. Donc la seule solution, c'est des voitures banalisées et ne pas aller chercher la petite bête pour la petite infraction, mais aller vraiment chercher les vrais délinquants de la route. Et il y en a beaucoup, croyez-moi.
Claude Gault, qui est accidentologue et auteur du site sécuritéroutière.org, va commencer par répondre.
Il y a deux aspects très différents dans la question qui vient d'être posée.
Il y a les comportements et plus de répression, plus de policiers cachés.
Non, le problème de répression des faibles excès de vitesse ou par rapport à ces comportements qui lui paraissent et qui sont réellement dangereux. Les Anglais sont intéressants puisqu'ils ont à peu près deux fois moins de morts que nous par million d'habitants. Hein, quand ils meurent deux Français sur les routes, il y a un Britannique ou un Danois ou un Suédois. On voit qu'ils ont véritablement une situation pour leurs policiers qui est beaucoup plus, ou gendarmes, l'équivalent, qui est beaucoup plus favorable qu'en France, parce que il n'y a pas de discussion devant les tribunaux avec des demandes de preuves absurdes qu'on ne peut pas avoir. Et on a une acceptation du témoignage du policier ou du gendarme qui dit « comportement dangereux ». Et je pense que l'idée d'avoir des véhicules qui sont des véhicules banalisés, qui circulent sur les routes, pour pouvoir sanctionner les comportements dangereux dont on parlait, ça exige qu'il y ait cette acceptation du témoignage du policier et du gendarme.
Et de la sanction.
Mais donc, je suis, moi, entièrement d'accord avec cette mesure, elle serait utile. Sur, par contre, désaccord sur les petits excès de vitesse. C'est un peu, ça c'est un réflexe de médecin, quand on parle par exemple de l'hypertension artérielle ou du cholestérol dans le sang, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont une petite hypertension, il y en a une petite quantité qui en a une grosse. On est tenté de dire bah, il faut surtout s'occuper de ces grosses hypertensions, de ces grosses hypercholestérolémies, alors qu'en fait, on voit qu'il y a autant à gagner sur l'un que sur l'autre. Donc en ce qui concerne la vitesse, on est dans une courbe qui augmente avec la vitesse de circulation. On a vu à partir de 2002 la diminution des vitesses qui s'est accompagnée d'une diminution de la mortalité. Donc je crois qu'il faut garder l'idée que la rigueur sur le respect des limites de vitesse est très importante pour la sécurité routière.
Alexandre Rochat, délégué interministériel adjoint à la sécurité routière, est-ce qu'on est plus sévère avec les petits ?
On n'est pas plus sévère avec les petits, on est sévère avec tous les excès de vitesse. Comme le dit très justement le professeur Gault, il faut empêcher tous les gens d'aller au-dessus de la vitesse limite autorisée parce que c'est celle qui garantit le moins de risque sur la route. Pour revenir sur la question de votre auditeur, on a déjà mis en place des véhicules banalisés qui sont là pour sanctionner des errements et notamment les dépassements de vitesse, puisqu'on a environ 400 voitures banalisées qui sont aujourd'hui armées par des policiers et des gendarmes et qui tournent sur les routes.
Certaines qui sont confiées à des sociétés privées.
Alors, pour l'instant, on n'en a aucune qui sont confiées à des sociétés privées. C'est notre projet, voilà, c'est un test en grandeur nature que nous faisons en Normandie.
Est-ce que ce ne sera pas plus difficile? Claude Gault parlait il y a quelques instants de l'acceptation de la sanction par le policier, et parce que dit le policier, si c'est une société privée avec une voiture banalisée, est-ce que là, ce ne sera pas encore plus difficile à accepter?
Non, je ne crois pas. Alors, tout d'abord, c'est toujours le policier qui constate l'infraction, puisque, y compris quand c'est un radar automatique, et dans ce cas des voitures radar, ce seront des radars automatiques, c'est toujours un policier ou un gendarme qui est dans un centre à Rennes qui constate l'infraction.
Qui valide ou pas. Sur la vitesse, justement, Roger est avec nous, il nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc, ma question, elle est très simple, et d'ailleurs, je crois que c'est le professeur Gault qui y a fait allusion. On a vérifié, par exemple sur le périphérique, mais ailleurs aussi, qu'une baisse des vitesses maximales autorisées avait une conséquence immédiate sur la baisse de nombre de blessés et de décès. Donc je ne comprends pas pourquoi, par exemple, il y a quelques mois, M. Cazeneuve, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a refusé d'examiner la proposition de baisse de vitesse sur les routes secondaires de 90 à 80 km/h, alors qu'il est démontré qu'il y aurait près de 300 décès de moins sur les routes de France. C'est incompréhensible.
Alors pour vous répondre, justement, le délégué interministériel à la sécurité routière, Alexandre Rochat, est-ce que c'est démontré, comme nous le dit Roger ?
Oui, il y a une règle qui a été prouvée. La seule difficulté, c'est qu'il y a des conséquences qui sont inhérentes à une baisse de vitesse sur des axes qu'il faut qu'on mesure. Ces conséquences. Ce sont des conséquences d'ordre de la volumétrie de véhicules qui seront, du trafic, des conséquences vraisemblablement économiques aussi. Et donc, je ne peux pas laisser dire que M. Cazeneuve n'a pas dit non, puisqu'il a demandé une expérimentation qui s'est achevée le 1er juillet dernier, et on attend les résultats de cette expérimentation pour ensuite en tirer les conséquences.
Claude Gault.
Je pense que la décision de M. Cazeneuve a été une mauvaise décision. Le comité des experts auprès du Conseil de sécurité routière a fait cette proposition qui est argumentée, et l'avoir refusée en disant on va faire une expérimentation sur moins de 100 km, alors qu'il y a eu des dizaines d'expérimentations de ce type qui ont été faites dans différents pays et qui montraient des résultats sur des milliers de kilomètres de voies. Donc, quand on a une certitude au niveau de l'expertise, parce qu'elle est évidente et elle est ancienne, et que l'on voit un ministre vous dire, devant un comité de sécurité routière avec ses experts et les gens qui en font partie, que d'une part, il y a déjà eu des réformes avec une efficacité importante, sans qu'il y ait d'action sur la vitesse. Et il nous a cité le rapport et les décisions de M. Pisani avec une liste de mesures prises. Tout ça était faux. Il a montré qu'il était incompétent dans le domaine. Ouais. Il a ensuite refusé cette mesure.
Mais Claude Gault, on vient de vous dire que c'était en expérimentation, qu'on attendait les résultats.
Faire une expérimentation quand on connaît le résultat, ça veut dire procrastiner. Ça veut dire ne pas vouloir prendre la décision et la reculer parce qu'on n'a pas le courage politique de la prendre. En Flandre, je finis là-dessus, le gouvernement flamand, lui, c'est pas 90 à 80 qu'il a décidé, c'est 90 à 70. Et bah, tout le monde ne lui est pas sauté dessus en disant que c'était anormal et qu'il allait y avoir un coût économique et que les voitures n'allaient plus pouvoir rouler ou aller rouler différemment. Quand on diminue la vitesse, on facilite le débit, on réduit les consommations. C'est pas indispensable, mais on sait qu'actuellement, ça diminuerait nos dépenses de pétrole, ça diminuerait la pollution. Il y avait donc de très bonnes raisons de le faire.
Monde, selon vous,
et
Claude
ça
Gault.
N'a pas été fait.
La parole à Maître Gilles Fourisco de l'association Victimes et Citoyens.
Je confirme exactement les propos qui sont tenus par ce professeur.
Vous voulez qu'on abaisse la vitesse sur les routes nationales.
Quand on veut enterrer une mesure, c'est très simple, il faut proposer l'expérimentation. Comme ça, on n'en parle pas trop et on oublie la...
Preuve que non, on est là.
Fort heureusement. Mais il y a des craintes derrière. Et effectivement, bah, quand on diminue une vitesse, on diminue les violences de choc et donc forcément les conséquences corporelles et le nombre aussi de morts avec les conséquences létales.
01 45 24 7000 pour intervenir dans cette émission consacrée à la mortalité sur la route. Comment inverser la courbe? Et nous sommes au téléphone avec Dominique. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir à vous. Moi j'aimerais revenir sur cette histoire de téléphone portable, parce que je fais pas mal d'autostop et j'ai constaté par un système de comptage dont je vous passe les détails qu'il y a de plus en plus de gens au téléphone portable dans leur voiture. Par mon système de comptage, j'arrive à toutes les trois voitures et demie.
C'est quoi votre système de comptage? Parce que là maintenant on est intrigué.
Ben, disons qu'au standard, ils m'ont dit de faire court, donc je vous explique rapidement.
D'accord, c'est de ma faute, pardon.
J'ai un chronomètre main droite, une calculatrice main droite, une calculatrice main gauche. Calculatrice main droite, elle me sert à prendre toutes les voitures qui passent, d'accord. Dans mon sens. Chronomètre main gauche, excusez-moi, me sert uniquement à prendre les voitures où le chauffeur a son téléphone portable, soit pour téléphoner, soit pour envoyer un SMS, parce qu'il y en a aussi.
Ça, vous mettez au bord de l'autoroute?
Eh bien, je fais du stop, pas au bord de l'autoroute, sur les départementales, etc. J'ai pas
d'accord. Donc c'est vous, oui, d'accord, vous faites du stop pour pour tout cela. Voilà. Donc ça, c'est
non,
le téléphone.
Je fais du stop pour me déplacer au départ.
Oui, hein. Oui, bien sûr, oui. Et puis en même temps, vous en profitez pour faire votre petite étude. D'accord, Dominique, je crois que... Merci, Dominique. Il y a Philippe également qui veut réagir sur ce genre de problème. Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir. J'aurais voulu témoigner le nombre de gens qui me dépassent sur une ligne blanche continue d'entre Autruy et Étampes, qui est une ligne droite formidable, mais principalement continue. Et il n'y a personne pour les arrêter. personnes.
Pas de force de l'ordre.
Que je croise avec des téléphones portables, hommes ou femmes.
Deux problèmes pour vous, Philippe. Les lignes blanches qui sont franchies et les téléphones portables au volant. Alexandre Rochat, délégué interministériel adjoint à la sécurité routière. On voit bien, là, c'est des choses que l'on observe tous les jours sur la route. Bon, quand on est pris, on n'est pas content, mais on le voit toujours chez les autres et on se dit il ne se passe rien.
Alors, on peut pas dire qu'il ne se passe rien.
Non, mais là, je résume le sentiment depuis tout à l'heure sur ces incivilités.
Je comprends le sentiment parce qu'effectivement, on a l'impression de voir beaucoup de gens qui ne respectent pas les règles.
Et la question serait, vous êtes dépassé, vous ne pouvez pas sanctionner tous les téléphones au volant, toutes les lignes blanches, toutes les incivilités.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne mettra jamais un policier derrière chaque conducteur. Donc, de toute façon, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que la règle, il faut qu'elle soit respectée par chacun. Évidemment, quand elle n'est pas respectée, il faut qu'on puisse la sanctionner, mais il faut que chacun prenne conscience du fait que c'est extrêmement important de respecter la ligne blanche, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de doubler, de ne pas prendre son téléphone au volant. Sur le téléphone, si vous me laissez une minute. C'est effectivement un sujet qui est extrêmement préoccupant aujourd'hui. Alors évidemment, c'est le téléphone quand on téléphone, mais c'est surtout le téléphone qui est utilisé pour textoter ou pour aller sur des réseaux sociaux. On a une difficulté aujourd'hui à mesurer exactement l'effet du téléphone sur les accidents de la route, puisqu'on a du mal à caractériser la cause du téléphone dans l'accident. On sait que c'est à peu près entre 9 et 10% de causes d'accidents mortels sont dues à l'inattention. Et dans l'inattention, il y a beaucoup de causes de téléphone. Mais ce téléphone est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille beaucoup. Alors, je pense que sur le téléphone, il y a un gros travail de sensibilisation qui doit être fait. Mais au-delà de ça, on va mettre en place un certain nombre de sujets qui vont nous permettre de verbaliser le téléphone. Le téléphone tenu au volant est déjà verbalisable, mais de pouvoir caractériser ces infractions. On a notamment étendu le champ de la vidéo-verbalisation sur le téléphone tenu au volant.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Et c'est Didier qui est avec nous au 01 45 24 7000. Bonsoir Didier.
Allô, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir à tous. Je vois donc déjà beaucoup de succès pour cette émission. Donc j'imagine que ça fait réagir beaucoup de monde.
Absolument.
Je vais demander déjà aux automobilistes de ne pas téléphoner au 45 24 7000, n'est-ce pas ? De pas téléphoner, s'il vous plaît, les automobilistes, ceux qui écoutent. Et s'il vous plaît, donc en fait, j'avais deux questions, l'une est incluse dans l'autre. La première, c'est plutôt une question de savoir les statistiques. Quand on nous donne les morts sur la route, j'aimerais savoir si vos intervenants pouvaient nous donner le chiffre à la fois de piétons, de cyclistes et d'automobilistes, voire de motocyclistes. Je veux dire, qui est tué, en fait, sur la route, ça m'intéresse, un, parce que j'ai l'impression, deux, donc, ça entraîne ma deuxième question. S'il s'avère que justement c'est des gens qui ne sont pas dans les voitures en fait qui sont tués, parce que je pense qu'il va être.
Ah, vous avez déjà la réponse à votre question alors.
Mais je sais pas, mais je demande aux intervenants, ceux qui ont l'information, de me la donner, parce qu'elle n'est jamais donnée dans les chiffres, vous remarquerez.
D'accord, on va vous répondre. Quelle est la deuxième partie de votre question ?
La deuxième question, c'est à savoir si vraiment on voit qu'il y a un problème sur la route, vraiment il y a plusieurs problèmes. Aux intervenants, c'est évident, il y a un problème. On peut pas mettre un gendarme partout, puisqu'ils sont déjà très occupés, à savoir tout le monde fait une infraction. Et vous le savez, vous l'avez dit dernièrement, tout le monde le fait plus ou moins. Les vitesses, etc. Est-ce que si l'infraction amène à une mort, est-ce que la responsabilité, si la responsabilité est évidente, où est l'accident et où est la préméditation ? Moi, je voudrais qu'on criminalise, c'est-à-dire qu'on criminalise qu'une personne qui pouvait éviter cet accident, ce n'est plus un accident, et on l'amène aux assises. Est-ce que, au niveau juridique, votre intervenant ici pourrait nous expliquer, est-ce que c'est pas possible de criminaliser les accidents de la route?
Alors, on va reprendre dans l'ordre peut-être sur les chiffres, puisque vous demandez des précisions. Nous les avons, ces chiffres sur l'évolution de la mortalité, selon les usagers. Claude Gault.
Alors, on les a, et il faut voir, mais vraiment un fait qui est peu connu, ou plutôt dont on parle peu. Si on regarde ce qui se passe en ville, une agglomération comme Paris, si on regarde ce qui se passe en race campagne, on voit que les gens tués sont totalement différents. En ville, on a vraiment de moins en moins d'automobilistes, mais il y en a encore quelques-uns, et on a des piétons et des conducteurs de roues, des conducteurs vélos qui sont heurtés par des voitures, et des conducteurs de motos qui peuvent aussi avoir des accidents où ils sont seuls en cause. Donc là, on a une fraction où on voit bien que le problème, c'est ce qu'on appelle les usagers vulnérables, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de carrosserie. Et il faut bien comprendre que c'est pas une question de responsabilité de l'accident, puisqu'on a bien vu, quand il y a eu le retournement de situation de la fin 2003, il y a eu une réaugmentation des vitesses, il y a eu une réaugmentation des tués voitures et aussi une augmentation du nombre de tués sur les véhicules à deux roues et les piétons. Et ça, c'était pas les piétons qui avaient changé de comportement, c'était le fait qu'il y avait des véhicules qui allaient plus vite et qui les tuaient. Donc on a cette situation en agglomération. Hors agglomération, on voit bien que le problème majeur maintenant, c'est la sortie de route. Et pas la sortie de voie à un endroit considéré comme dangereux. L'idée qu'il y a des points noirs et c'est cela qu'il faut corriger, c'est une année du début de mon activité en accidentologie. Ça date de 40-50 ans. Progressivement, les points noirs, les zones d'accumulation d'accidents, comme le disaient les pouvoirs publics, a pratiquement disparu. On a des gens qui téléphonent, qui ne font pas attention, qui sont sous l'influence de l'alcool, qui sont fatigués et qui quittent la voie, et c'est tout au long d'un parcours. Donc on voit à ce moment-là que l'on a des gens qui se tuent seuls, sont très fréquemment sous l'influence de l'alcool, et on a donc une connaissance parfaite. Et là, l'interlocuteur peut aller sur le site du ministère où il a accès directement au bilan de chaque année, et il a tous ces chiffres-là. Mais je voudrais revenir sur le problème du téléphone, parce que c'est un problème passionnant. On n'arrive pas à contrôler ce développement extraordinaire qui est aussi bien sur les trottoirs, dans la rue avec des piétons, que dans les voitures. Et ça rejoint l'incapacité que l'on a eue d'agir sur l'alcool. Puisque, il y a 40 ans, j'avais déjà 30% des accidents mortels avec de l'alcool, on en a toujours 30%. Et on voit que là, il y a un point qui est critique, et parce que les gens ont du mal à accepter l'idée que c'est l'efficacité sur la vitesse qui va réduire les accidents liés à ces facteurs sur lesquels on est inefficace. C'est-à-dire que quelqu'un sous l'influence de l'alcool...
C'est-à-dire que vous laissez de côté les téléphones et tout mais ça je pour, dis vous, pas, pour agir mais non, sur la vitesse ?
Je dis, on arrive, c'est tout à fait différent, j'ai essayé, j'aimerais bien, on n'y arrive pas. Alors que si les gens vont moins vite, avec les voitures actuelles, les airbags, les ceintures, eh bien, on voit des accidents qui sont moins dangereux. Et donc, on a à ce moment-là une diminution de la mortalité. Donc, nos 30% par rapport à l'année 72-73, c'est beaucoup moins de gens tués sous l'influence de l'alcool, et ils ne se sont pas retrouvés, du fait de leur voiture, des progrès en situation d'être tués. Maintenant, si on les fait aller plus doucement, on a des effets, et c'est pour ça que la clé, c'est le contrôle de la vitesse, en particulier par les radars automatiques, je pense qu'on va en parler.
Oui, on va
parce
en parler avec Ariane.
Un radar automatique, vous avez mille fois plus de risques de passer devant un radar automatique que d'avoir à souffler dans un éthylotest.
19h44, Ariane, soyez la bienvenue dans le téléphone sonne.
Merci.
Nous vous écoutons.
Bon, moi je viens de faire à peu près 3000 km en l'espace. Oh, je vais peut-être fermer ma radio parce que je crois que ça résonne, non ?
Il y a un petit écho, effectivement.
Alors attendez, je la ferme, ce sera beaucoup mieux.
Vous n'êtes pas au volant ?
Non.
Bon, alors tout va bien. Voilà, la radio est fermée. Ariane, et votre question sur les radars ?
Bon, alors, je viens de faire à peu près 3000 km en un mois. J'en fais grosso modo 12 000 dans l'année. J'ai levé le pied depuis longtemps, c'est-à-dire que pour avoir la paix, je roule à peu près 5 km en deçà de la vitesse autorisée. Mais je suis pas malheureusement, je suis à peu près la seule à le faire.
Donc, votre question ?
C'est même pas une question, c'est un témoignage. J'ai vu que les radars, ça sert pas énormément parce que les gens, ils continuent à foncer, ils ralentissent au moment où il y a le radar, et puis ils foncent. Ah. Hein, ça, c'est clair, c'est net. Il vous colle à l'arrière de la voiture en cas de coup de frein.
Bon, alors on ne va pas faire toutes les incivilités et tous les comportements, si vous le permettez, Ariane. On va rester sur cette question des radars, puisqu'il y a toujours de plus en plus de radars, et on le voit bien, on a commencé cette émission, Claude Gault l'a rappelé, il y a de plus en plus de morts depuis notamment 3 ans. Alors, est-ce que les radars sont véritablement efficaces ? Ou alors, qu'est-ce qui ne va pas depuis 3 ans ? Et ça, c'est du côté de la sécurité routière, avec vous, Alexandre Rochat, vers vous que je me tourne.
Alors, la réponse est oui, les radars sont efficaces. Les radars fonctionnent.
Alors, pourquoi y a-t-il plus de tués sur les routes ?
J'ai du mal à faire le lien exact entre les deux. Il y a une efficacité des radars.
Mais quant à rien, ça ne semble pas avoir d'impact, ces radars. C'est peut-être lié avec ce nombre de tués qui augmente.
Oui, mais parce que les radars tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui montrent un certain nombre de limites, et notamment parce que les emplacements sont connus. On le sait d'ailleurs c'est une vraie volonté politique, hein, puisqu'on a des panneaux qui annoncent ces radars. Et ces radars sont connus, et sont connus longtemps à l'avance, ce qui fait qu'effectivement, on a ce que dit votre auditrice, c'est-à-dire que les gens ralentissent devant le radar et réaccélèrent ensuite. Deuxième point, ces radars sont connus aussi parce qu'ils sont désignés sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui permettent de connaître ce qu'on appelle les zones de danger dans certains opérateurs, de savoir que ce sont les radars. Et donc, on arrive ici peut-être à une limite de la manière dont on a implanté les radars jusqu'ici. D'ailleurs, on l'a vu, puisque dans le dernier comité interministériel de la sécurité routière, on a décidé de remettre à jour la stratégie d'implantation de nos radars avec un certain nombre de points qui sont, premièrement, augmenter la mobilité et le caractère moins prévisible de l'emplacement des radars.
Moins de radars fixes.
Donc on met notamment des radars qu'on appelle autonomes, qu'on pose au bord des routes pour protéger les chantiers, mais qu'on peut mettre aussi pour sécuriser des itinéraires, et les radars mobiles dans les voitures dont j'ai parlé tout à l'heure.
Maître Gilles Fourisco de l'association Victimes et Citoyens, vous réclamez quoi par rapport à ça, par exemple, par rapport à la politique de radar, ou encore ce que l'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de criminalisation sur des gens qui commettent des accidents, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec est-ce que c'est un acte prémédité ou pas, volontaire?
Il y a deux questions qui sont posées, en fait. La première question, c'est la question du contrôle de la vitesse. Et là, effectivement, l'outil moderne, c'est le mobile, le véhicule banalisé. La question, ça va être la durée d'utilisation quotidienne de ces véhicules. Étant précisé que la question aussi, c'est que font les forces de l'ordre avec énormément de missions au quotidien de sécurisation, les attentats terroristes. La deuxième question qui est posée, c'est la question de la criminalisation. Alors, à moins de changer la loi, on va rester sur un aspect délictuel. Effectivement, il y a des comportements qui sont excessivement borderline, avec consommation cumulée de stupes, d'alcool, conduite sans permis, sans assurance, avec même des cas de récidive. On est sur des peines encourues maximales, c'est 10 ans. Il est très rare, à moins de prendre le volant et de volontairement foncer sur des gens, qu'il y ait une poursuite devant une cour d'assises. Voilà.
Et ça, vous le regrettez ou...
La question, c'est l'application de la sanction pénale. Ce qui est plutôt regrettable, c'est l'absence d'effectivité. Combien de fois on défend des familles endeuillées et malheureusement, on sort d'audience avec le prévenu qui passe par exactement la même porte. Et la seule sanction qui vaille, c'est que le prévenu passe par une porte latérale et surtout encadré par des forces de police.
C'est pas dissuasif ?
Pas suffisamment dissuasif, étant précisé que la majorité des peines sont prononcées avec un sursis.
01 45 24 7000 et Paul est avec nous. Paul.
Oui, bonjour. Bonsoir. Merci pour votre émission.
Merci à vous.
Alors moi, je voudrais faire deux remarques et deux propositions.
Ah.
La première remarque, c'est que nous sommes de plus en plus souvent taclés par les voitures qui nous suivent parce qu'elles ne respectent pas les distances de sécurité. Alors, je propose que l'on demande aux constructeurs de véhicules, pour les nouveaux véhicules, de les équiper d'un phare arrière qu'on pourrait manipuler à la main, quoi donc, pour avertir la personne qui nous suit qu'elle est en train de nous gêner, de nous mettre en danger, de ne pas respecter les règles de distance de sécurité. Donc, je pense que on pourrait équiper les voitures de quelque chose qui nous déstresserait, parce que c'est extrêmement stressant et donc dangereux pour notre propre conduite d'être taclé comme ça par la voiture de derrière, et je vois que ça se reproduit de plus en plus. Je fais une deuxième remarque. Quand je rentre sur l'autoroute, les autoroutes sont tellement saturées de camions que la plupart du temps, je n'arrive pas à voir à quelle vitesse je suis autorisée à rouler. Donc, j'attends des kilomètres avant de voir le deuxième panneau. Je propose qu'il y ait plus de panneaux à l'entrée des bretelles d'autoroute pour nous indiquer la vitesse à suivre. Ça éviterait peut-être bien des accidents. Et troisièmement, je fais une remarque à tous les gens que je viens d'entendre, très rapidement. Arrêtez de parler d'incivilité. Ce n'est pas une question de savoir vivre, de conduire prudemment. Ce n'est pas une incivilité. Et là, vous infantilisez les gens et vous amendrez leur délit. C'est un crime, c'est criminogène. Je vous demande d'arrêter de parler d'incivilité. Conduire avec un téléphone à la main, ce n'est pas incivil, c'est criminogène. Voilà.
Alors, on va bien évidemment répondre à toutes vos interrogations, Paul. Mais nous avons également Patrick qui peut être complémentaire sur votre question. Bonsoir Patrick, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Je vous entends parler là depuis le début de l'émission de drogue, d'alcool au volant, de vitesse excessive, donc entièrement d'accord avec tout ça. Moi, c'est juste une remarque que je voulais vous apporter, c'est au niveau des camions. Je trouve que vous parlez pas assez des camions. Et sur la route, sur les autoroutes, les camions, c'est quand même... Moi, chaque fois que j'écoute France Inter, et j'écoute tous les jours France Inter, trafic info, tout ça, accident à droite, accident à gauche, deux fois sur trois, quatre fois sur cinq, il y a des camions impliqués. Et là, je pense aussi qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là.
Alors, voilà, on va répondre. Merci Patrick, merci Paul. Restez à l'écoute. Peut-être tout de suite sur les incivilités, puisqu'en plus j'ai repris ce terme. Maître Gilles Fourisco, avocat de l'association Victimes et Citoyens, est-ce que ce terme ne vous convient pas?
Effectivement, l'auditrice a parfaitement raison. On ne parle pas d'incivilité, on parle de délinquance, de délit, d'infractions au code de la route qui ont été commises et qui doivent être sanctionnées avec des sanctions qui sont des sanctions pénales, naturellement.
Donc on ne parle pas d'incivilité?
Surtout pas.
Mais il y a quand même des petites incivilités du quotidien, on refuse une priorité, on oublie un clignotant.
Il y a des non-respects du code de la route qui peuvent avoir des conséquences.
Claude Gaud.
Oui, je vais revenir, parce qu'on arrive, je pense, à la fin de l'émission, sur deux points extrêmement importants, parce qu'ils expliquent la dégradation actuelle. Sur le problème des radars automatiques, on l'a dit, les gens savent où ils sont. Il y a des avertisseurs de radars qui disent, dès qu'on voit des policiers au bord de la route... On les signale alors qu'on
avec
a une
les
période
sociaux également.
Où on veut lutter contre
Donc ça, il faudrait prendre des mesures aussi.
Il faut prendre des mesures qui sont des interdits stricts. La Suisse a pris, avec l'Autriche et d'autres pays, la décision d'interdire la simple possession. Des Français ont passé la frontière et ont eu des contraventions de plus de 500 euros parce qu'ils avaient dans une valise un coyote, pour être précis. Donc, on sait qu'une des raisons de la dégradation, c'est la signalisation de tous les contrôles policiers qui a dégradé le pouvoir de dissuasion.
Il
y a une autre chose,
Claude Gaud,
qui est fondamentale.
Quand même pour avancer.
Oui, mais je voudrais la dire avant qu'on ait fini l'émission. C'est que dans les sanctions, l'aboutissement de la sanction au retrait de points. Un rapport du ministère a montré, il y a plus de 7 ans, que la moitié des retraits de points qui devraient être faits ne le sont pas. Et ça n'a pas été changé. Donc des dysfonctionnements de cette nature, ça détruit le pouvoir de dissuasion de tous les systèmes qu'on peut mettre en œuvre.
On va revenir à la question, l'interrogation de Paul concernant les distances de sécurité. Et elle fait une proposition avec un phare. En tout cas, elle demande à ce que les constructeurs soient associés et apportent des réponses. Est-ce que
les radars anti-collision existent? Ils peuvent être mis en service. On a des tas de systèmes efficace de sécurité structurelle. Le LAVIA, qui est l'adaptation de la vitesse à la vitesse autorisée localement.
Est-ce qu'il faut rendre obligatoire sur tous les véhicules?
Bien entendu, il avait été question, c'était la fin de la période où M. Sarkozy était président de la République, il avait demandé aux délégués interministériels une feuille de route pour la mise en œuvre des LAVIA. On les a expérimentés dans le groupe de recherche dont je fais partie, on sait que ça marche, c'est-à-dire vous êtes à un endroit, il y a une localisation GPS que personne ne connaît, c'est juste votre voiture qui la connaît, il y a une cartographie, il y a des panneaux qui peuvent être vus également avec des caméras, et si vous êtes dans une zone à 50, vous ne pouvez plus la dépasser. Et c'est la réponse à la question d'Adam sur autoroute. Si cette partie d'autoroute est à 110, vous ne pouvez pas dépasser de 110. Donc on ne veut pas mettre en œuvre des méthodes qui sont parfaitement rodées, qui sont connues, parce qu'il y a trop d'opposition, parce qu'il faut le dire, il y a un lobby de la vitesse.
Alexandre Rochat, délégué interministériel adjoint à la sécurité routière, là vous êtes clairement mis en cause. On ne veut pas aujourd'hui?
Non,
c'est l'Europe qui ne veut pas.
Voilà, en fait, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'est pas tout seul. Dès qu'on parle de constructeurs et dès qu'on parle d'obligation à imposer aux constructeurs automobiles, eh bien évidemment, il y a la réglementation européenne qui rentre en vigueur. Et donc, petit à petit, il faut demander à ce que un certain nombre de dispositifs, mais c'est ce qu'on a vu avec l'ABS. Concrètement, l'ABS existait et on l'a rendu obligatoire en le rendant
obligatoire
au niveau
européen. En fait, à vous écouter, aujourd'hui, le nombre de morts sur les routes pourrait diminuer si les constructeurs mettaient un peu plus en avant tout ce qui est technique et tout ce qui est
ils le font déjà, puisqu'ils le mettent déjà à disposition d'un certain nombre de véhicules. Et petit à petit, on augmente.
Il faut rendre obligatoire ce qui est actuellement du volontariat. Et là,
ou de l'option.
On le sait qu'au niveau de l'Europe, l'obstacle est l'obstacle allemand qui a fait sa richesse. L'Allemagne a fait sa richesse sur des véhicules inutilement lourds, puissants, rapides.
Cyprien, bonsoir, bienvenue au téléphone sonne.
Oui, bonsoir. Donc, je suis Cyprien. Donc, moi, j'ai 40 ans. Je suis médecin. Je vais la faire vite. Hein. Je vous remercie de prendre mon appel. Déjà, c'est sympa.
Je vous en prie.
Je suis psychiatre dans le Vaucluse, donc moi je parle pour mon département. Hein. J'ai pris l'émission en cours, donc j'espère que je vais pas faire trop de redites. Donc moi j'ai eu un gravissime accident de moto. Hein. Je suis motard, j'ai souffert d'un défaut de comportement d'une automobiliste qui m'a coupé la route. Et alors je pense que ce qu'on appelle l'insécurité routière, en fait, elle est plurifactorielle. Je pense qu'on en a parlé là, les comportements. Vous parliez d'incivilité, ça c'est vrai que moi je la vois au quotidien, les téléphones portables, etc. Moi je peux rajouter dans mon département, il y a un problème au niveau de la DDE, c'est-à-dire que les infrastructures routières sont pas adaptées à la circulation. Et il y a un troisième point, moi c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est là je parle en tant que motard, moi tout ce qui est assistance à la conduite pour les automobilistes, évidemment ça rend beaucoup de services aux automobilistes, les GPS, les radars de recul, etc. Mais pour nous, les motards, c'est la catastrophe, je trouve. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils conduisent au GPS, c'est-à-dire qu'ils savent même plus où ils vont. Eux, ils reculent sans
trop assister,
sans regarder, beaucoup trop assister. Et j'ai vu récemment, là, donc moi, je suis psychiatre, donc je m'intéresse un peu à tout ça, il y a une étude qui a montré qu'il y a certaines zones du cerveau, maintenant, qui sont plus stimulées quand les gens raisonnent, je dirais, bêtement, en suivant leur GPS, ils savent même plus où ils vont. C'est-à-dire qu'ils savent même plus qui ils croisent sur la route, ils savent même plus si à quel stop il faut s'arrêter, ils sont capables de prendre des routes en sens interdit parce que le GPS leur dit d'y aller. Et nous, moi je vous parle en tant que motard, j'ai souffert de ça, j'ai été en arrêt de travail pendant un an, j'ai failli mourir, j'ai failli être amputé. Et voilà, c'était juste un témoignage. Alors, au-delà des incivilités du téléphone.
En tout cas, voilà, ça vous est arrivé à vous et on comprend tout à fait. Cyprien, merci beaucoup. Peut-être sur cette zone du cerveau qui n'est plus utilisée. Claude Gault.
Il est évident que tout ce qui va distraire un automobiliste de son travail d'automobiliste...
C'est pas censé le distraire, c'est censé l'aider à la conduite.
Non, on voit qu'on peut...
C'est ce qu'on nous vend, hein.
Oui, mais... Écoutez, là, ce serait une autre émission de dire que ce qu'on nous vend ne peut pas forcément correspondre à ce qui est utile. Tout ce qui distrait est mauvais. Et c'est vrai que ça commence à un niveau très faible par la radio... Mais il n'y a personne à qui répondre, on est passif, donc le risque est faible. Il y a le passager, mais le passager, comme il est là, il sait à quel moment il doit se taire. Et puis le téléphone, c'est effrayant parce que celui qui vous appelle ne sait pas que vous pouvez être dans une situation où il ne faut surtout pas téléphoner. Donc tous ces instruments sont des instruments dangereux et c'est extraordinaire de voir qu'on développe les instruments dangereux et qu'on ne met pas en place les instruments protecteurs.
Est-ce que c'est vrai?
Oui, bien sûr. Le téléphone et tous les smartphones, etc., sont des instruments qui sont extrêmement intelligents, sauf quand on les utilise trop. Et ce qui est le cas quand on est dans la voiture, où on n'a pas à les utiliser quand on conduit, parce qu'effectivement, on n'a plus l'attention à la route.
Et on a les moyens de les mettre tout de suite en veille et qu'il y ait un message qui dise.
Il y a des dispositifs qui existent
déjà.
Allez sur le site de la sécurité routière. Il y a une application qui s'appelle Mode Conduite que nous avons développée, qu'on peut télécharger sur son téléphone.
Sur ce que disait Cyprien, qui a donc subi un accident de moto il y a un an. Il parlait des infrastructures routières. Est-ce qu'elles sont encore responsables d'accidents? Il y a encore du travail à faire. On sait que les motards dénoncent les glissières de sécurité, notamment.
Alors, c'est une Claude des Gault. Propositions qu'on avait faites, qu'a accepté, il était candidat, le président de la République actuelle.
Emmanuel Macron.
Dans les mesures qu'on proposait, il y avait l'expertise des infrastructures et, justement, essayer de s'adapter pour que l'on ait, du fait de l'expertise des infrastructures, des mises en conformité, des améliorations de la signalisation, parce que c'est vrai ce qui a été dit au début de l'émission, la signalisation allemande ou suisse est bien meilleure que la signalisation française, où on voit des tas de communes ou de départements, puisque maintenant les départements ont la presque totalité des voies, mettre des panneaux qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il faudrait mettre à cet endroit-là.
Merci d'être venu et d'avoir assisté au téléphone sonne. Alexandre Rochat, délégué interministériel adjoint à la sécurité routière. Claude Gault, accidentologue. Maître Gilles Fourisco, avocat de l'association Victimes et Citoyens. Merci à Martin et Clément qui vous ont accueillis au Standard et à toute l'équipe du téléphone sonne. J'étais ravi d'être en votre compagnie. Il est 20h, voici les informations.